Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Bonjour et bienvenue sur Les Cousins Théologiens, le podcast de Maxime et Benjamin. On continue les épisodes où on discute de différents sujets de la théologie, de la vie chrétienne, de la Bible pour vous encourager. Alors les amis, cette introduction est un peu spéciale parce que je suis tout seul pour l'instant dans ce podcast, mais je vais être rejoint très prochainement par Maxime. En fait, pour tout vous dire, l'introduction qu'on avait faite dans cet épisode, qu'on l'a enregistré il y a quelques mois, s'est perdue. Et du coup, voilà, je refais un truc plus simple, plus rapide, mais juste pour laisser la place, la transition au vrai épisode. Le seul truc, c'est que j'avais posé une question à Maxime et il va répondre à cette question, mais je ne sais plus quelle question c'était. Donc voilà, les amis, on va juste laisser la place à Maxime qui répond à une question que je ne vais pas poser dans cet épisode, mais c'est à vous de la deviner, à vous d'essayer de discerner ce dont il s'agit. Mais en tout cas, l'épisode, c'est autour de la lettre aux Romains, ce livre de la Bible qui est vraiment magnifique. On voulait partager autour de ce livre et pourquoi on le trouve particulièrement encourageant. Quel impact il a eu sur nous. Et en fait, je pense que dans mes mémoires, ma mémoire lointaine, la question que j'avais posée à Maxime, c'était quelque chose comme « Raconte-nous un peu l'impact de la lettre aux Romains sur ta vie. Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers où tu as été particulièrement encouragé par certains épisodes, certains aspects de la lettre aux Romains ?» Et je pense qu'il répond par rapport à ça. Donc voilà, place à l'épisode, les amis. Et désolé pour ce contretemps.
Comme tu dis, j'ai dû l'entendre avant dans mon enfance, à l'église ou dans ma famille, mais je pense que peu de temps après ma conversion, j'étais tombé sur un livre de Ralph Challis, Si tu veux aller loin, qui m'avait exhorté à lire la Bible et à lire en un an. Et du coup, j'avais commencé par le Nouveau Testament, hein, pour faire les choses dans l'ordre. Et du coup, assez vite, après les évangiles, on arrive assez vite à l'épître aux Romains. Et du coup, ouais, j'avais lu à cette époque-là l'épître aux Romains. Je me souviens que c'était un livre compliqué, mais émerveillant. Je me souviens que quand j'arrivais au sermon sur la montagne dans les évangiles, j'avais l'impression que tout ce que je connaissais de la vie chrétienne était déjà dit par Jésus là. Et du coup, j'avais hâte de voir la suite. Et en fait, il y avait encore beaucoup, beaucoup à apprendre, notamment dans l'Épître aux Romains, qui est très riche.
Super. Ouais, moi, je me souviens plus. Enfin, j'ai pas eu de moment particulier où j'étais marqué par la lettre aux Romains, mais c'était assez progressif. Alors, comme toi, hein, je connaissais quand j'étais tout petit. Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, etc. Mais c'est vraiment après ma conversion, quand le Saint-Esprit a fait cette œuvre de nouvelle naissance dans mon cœur et m'a ouvert les yeux sur ces réalités spirituelles et sur le sens de l'Écriture, que j'ai vraiment compris la profondeur de ces versets-là. Et je sais que ça m'a beaucoup... je pense que c'était en regardant des vidéos de Paul Washer, où on a tous les deux été bien impactés par Paul Washer au début de notre vie chrétienne, mais que je voyais une explication de l'Évangile qui était très claire et que je retrouvais dans la lettre aux Romains. Donc la gravité du péché, le sens de la croix, le privilège d'être justifié aux yeux de Dieu. Et la lettre aux Romains met ça en avant et ça m'a bien impacté et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne.
Excellent.
Alors Maxime, pourquoi, dis-nous un peu pourquoi on ferait un épisode uniquement sur la lettre aux Romains. On pourrait faire un épisode sur chaque livre de la Bible et peut-être c'est une bonne idée de faire ça en fait dans l'avenir. On a d'un coup 65 idées de sujets en plus.
Excellent.
mais la lettre aux Romains, dans un sens, c'est une lettre, il y a plusieurs lettres dans le Nouveau Testament, une lettre qui est écrite à des chrétiens à Rome par l'apôtre Paul, assez classique comme d'autres écrits qu'on retrouve du Nouveau Testament. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité de cette lettre, Maxime ?
Il y aurait chaque livre a ses spécificités qui le rendent digne d'intérêt, mais là, si on peut défendre le fait qu'on fait un épisode sur Romains, je dirais que c'est un texte qui est particulièrement précieux parce qu'il présente la foi chrétienne de manière systématique, c'est-à-dire de manière articulée, avec des enchaînements, des raisonnements. Hein, plein de fois, si vous lisez Romains, vous verrez des ainsi donc, des mots qui montrent que Paul essaye de démontrer quelque chose, de poser des prémices, d'aboutir à des conclusions. Et ça nous aide à penser la foi de manière structurée, à comprendre comment fonctionne notre salut, comment Dieu nous sauve, dans quel but. Donc je dirais que c'est une lettre particulièrement riche sur le plan doctrinal. D'ailleurs, c'est impossible, je pense, de traiter de n'importe quelle doctrine chrétienne sans faire référence à l'Épître aux Romains. Si vous réécoutez l'épisode précédent, on y a fait référence pour parler de la révélation, la façon dont Dieu s'est révélé dans la nature en Romains 1. On en a parlé pour la nécessité de prêcher en Romains 10. Vraiment chaque doctrine qu'on aborde, Romain intervient parce que c'est une épître particulièrement riche pour ce qui est de la doctrine.
Ouais. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, bah, toutes les lettres du Nouveau Testament, tous les écrits du Nouveau Testament sont des écrits de circonstances. Donc c'est dans des circonstances précises que leurs auteurs prennent la plume et écrivent. Et donc voilà, dans Galates, Paul écrit aux Galates parce qu'ils ont mis de côté le vrai évangile. Timothée, 1 et 2 Timothée, Paul écrit à Timothée qui est un jeune pasteur pour l'encourager. Et on pourrait dire la même chose de tous les écrits du Nouveau Testament. Philippiens, Paul écrit pour remercier les Philippiens pour un don qu'ils ont envoyé, etc. Donc à chaque fois, il y a des circonstances qui motivent la lettre et qui donnent lieu à l'écriture de la lettre et qui font qu'on n'a jamais des écrits totalement systématiques, tu vois, de dire, ah ok, les amis, qu'est-ce que c'est l'évangile? Voilà, numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Et même Romain n'est pas totalement comme ça. Romain est aussi une lettre de circonstance. C'est dans des circonstances précises que Paul écrit aux Romains. On voit ça avec le chapitre 1 et le chapitre 16, hein, que Paul veut leur expliquer l'évangile qu'il annonce. Et en partie, une des raisons pour lesquelles il écrit Romain, c'est qu'il veut trouver du soutien de leur part. Et voilà, et différentes autres raisons qu'on pourrait mettre en avant. Et en même temps, en faisant cela, on en vient à avoir un écrit qui est le plus systématique possible qu'on pourrait avoir, dans un sens, l'explication la plus, oui. Détaillé de l'évangile, de la bonne nouvelle qui est au fondement, qui est au cœur de la foi chrétienne. Et c'est ça qui rend ce livre particulièrement précieux pour avoir un développement détaillé et logique également de l'évangile.
Alors Benjamin, là, depuis le début, on parle de Romains comme d'un livre dans lequel on se promènerait et qu'on aurait bien en tête. Mais est-ce que tu pourrais aider nos auditeurs avec un bref plan, une structure rapide du livre pour se situer dedans, comme dans une carte?
Ouais, c'est une bonne idée. Alors, peut-être deux moyens de le voir. Un moyen plus grand, plus large, ce serait de voir les chapitres 1 à 12 et les chapitres 13 à 16, de voir qu'il y a une partie de doctrine et une partie de pratique. Donc, dans les chapitres 1 à 12, la doctrine,
Un,
les
onze.
vérités de l'évangile. 1 à 11, pardon. Oui, 1, oui, merci. 1 à 11 et 12 à 16. Donc 1 à 11 qui serait l'explication de l'évangile, voilà ce qu'est l'évangile, voilà les vérités que vous devez croire. Et chapitre 12 à 16, voilà comment vous devez vivre à la lumière de cet évangile, donc les implications pratiques. C'est une structure qu'on retrouve dans plusieurs lettres de Paul, hein. Par exemple Éphésiens, c'est la même chose. Les chapitres 1 à 3, voilà les vérités que vous devez croire, voilà la doctrine. Et les chapitres 4 à 6, voilà la pratique, voilà comment vivre à la lumière de ces vérités. Un deuxième moyen de voir ça, Romain, c'est de zoomer un petit peu, de voir ça de manière un peu plus détaillée. Et je ne pense pas que cette structure serait très controversée, mais on a différents, voilà, une progression dans ce que Paul développe. Et on pourrait dire que dans les trois premiers chapitres, chapitres 1 à 3, Paul veut montrer que tous les êtres humains sont coupables et font face à un jugement. Il veut montrer que qui qu'on soit juif, non juif, et qu'on ait accès à la révélation spéciale de Dieu ou pas, peu importe, on est coupable d'avoir rejeté Dieu et on fait face à un jugement. Ça, c'est ce qui monte jusqu'au chapitre 3, le verset 20. Et ensuite, à partir de là, dans les chapitres 3 et 4, il va montrer quelle est la solution à cette culpabilité, à cette condamnation, à ce jugement. La solution, c'est la justification par la foi en Christ. Alors ça, c'est des grands mots, hein, mais c'est ce que Paul explique dans cette lettre aux Romains. Il montre comment on peut être justifié par la foi, par la confiance que l'on place dans l'œuvre de Christ, qui a pris sur lui notre condamnation. Donc ça, c'est les chapitres 3 à 4. Et ensuite, dans les chapitres 5 à 8, c'est un peu comme si Paul montrait la vie du croyant justifié, les implications de la justification, comment vivre dans ce règne de la grâce, dans ce règne en tant que chrétien qui est déclaré juste aux
Et
yeux de Dieu.
j'ai le chapitre 5 là sous les yeux et il commence par étant donc justifié par la foi et il
C'est
poursuit.
ça.
Donc étant
Ouais.
ce qu'on vient de voir des chapitres 3 et 4, voici la suite.
Ouais. Exactement. Ouais. Et on pourrait même dire que les chapitres 5 et 8 sont très parallèles, montrent les fruits de la justification, les bienfaits, les cadeaux qui en découlent. Et chapitres 6 et 7 traitent plus de la question du chrétien et du péché. Donc ça, c'est les chapitres 5 à 8. Chapitre 9 à 11, c'est peut-être les chapitres qui font le plus débat dans la lettre aux Romains, des chapitres qui parlent plus de questions que les Juifs de l'époque pouvaient avoir à la lumière des chapitres 1 à 8, de se dire mais qu'est-ce qu'il en est du plan de Dieu, du plan souverain de Dieu, et en lien avec le peuple d'Israël. Et bon, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans les détails de ça, Maxime, Ou si tu as quelque chose à mentionner, mais ça, c'est ce qui est abordé dans les chapitres 9 à 11.
Je pense, c'est une idée que j'ai en passant et qui est pas propre au chapitre 9 à 11, c'est que j'ai dit au début que c'était un écrit très doctrinal et très systématique, mais en même temps, c'est aussi un écrit très biblique, c'est-à-dire au sens d'ancrer dans l'histoire de la Bible, dans le survol de l'histoire de la Bible, et c'est particulièrement clair pour les chapitres 9, 10 et 11 encore plus, mais même avant, ça intervient. Donc, à la fois, c'est une épître précieuse pour comprendre la doctrine biblique, mais même pour comprendre le reste de la Bible, pourquoi il y a eu la loi à telle époque, pourquoi, etc. Je mentionnais ça juste en passant.
Ouais, non, tout à fait, effectivement. Ouais. Et on voit que oui, même dans le début, Paul puise à nombreuses reprises dans l'Ancien Testament pour montrer la culpabilité des êtres humains, pour montrer la justification par la foi, etc. Ouais. Et ensuite, dernière partie, donc les chapitres 12 à 16, où il y a toutes les exhortations pratiques, comment vivre à la lumière de ce salut en Christ, de cette justification par la foi.
Ouais,
Donc voilà quelques guidelines pour comprendre ce livre.
Chapitre 12, il y a beaucoup d'exhortations les unes à la suite des autres. Chapitre 13, il y a l'idée de soumission aux autorités. Voilà, donc c'est un peu ce type d'ambiance dans les derniers chapitres de l'épître.
Ouais, tout à fait. Alors, je sais plus ce qu'on avait prévu à ce moment-là du podcast, Maxime.
Ouais, alors
Est-ce que...
on voulait parler de passages particulièrement
Ah oui.
précieux, un peu faire un survol différent de l'épître aux Romains, de passages soit qui t'ont été précieux dans ta vie chrétienne, soit que tu trouves précieux aujourd'hui. Je te laisse commencer avec le chapitre 1. Est-ce qu'il y en a dans le chapitre 1
Oui, je pense que le chapitre 1 m'a aidé à comprendre la nécessité, tu mentionnais ça en fin du dernier épisode, la nécessité d'évangéliser en lien avec le fait que la Bible est nécessaire. En l'étudiant et en méditant ces versets, je pense qu'il montre de manière claire comment il y a une culpabilité universelle de l'humanité qui est entièrement juste. Et que dans un sens, l'entièreté de l'humanité a accès au problème, mais pas nécessairement à la solution. Et on voit ça dans les versets 18 à la fin, hein, mais
32.
surtout 18 à 25, ouais, c'est ça, 18 à 32, en montrant que Dieu s'est révélé à tous les êtres humains par la création. Donc personne ne peut nier l'existence de Dieu, les preuves sont là, les preuves sont claires et évidentes. Et c'est ce qu'on appelle la révélation générale. Mais la réaction des êtres humains, ce à quoi la révélation générale mène, c'est à la condamnation. Pas parce que Dieu serait imparfait, pas parce que cette révélation serait imparfaite, mais parce que les êtres humains ont choisi de tourner le dos à Dieu et n'ont pas choisi de lui rendre gloire. Et c'est un passage qui montre de manière claire qu'il n'y a personne qui est innocent sur cette terre, que le jugement de Dieu est totalement mérité et juste. Et c'est ce qui, je pense, donne encore plus de zèle et de désir de vouloir partager la bonne nouvelle des chapitres 3 et 4 de la justification par la foi seule, à tous ceux qui nous entourent et à tous les peuples dans le monde.
Et même aux chrétiens, le chapitre 1, verset 15, nous parle de Paul qui a un désir d'annoncer l'évangile aux chrétiens. Et je mentionne ça aussi en passant parce que le premier épisode des Cousins théologiens, si je me souviens bien, à part celui de présentation, concernait cela, le fait d'annoncer l'évangile aux chrétiens. Donc je vous en dis pas plus, comme ça peut vous donner envie d'aller réécouter cet épisode. Est-ce que tu vois des choses dans
On
la suite du
avance.
livre? Ouais.
Ouais, chapitre 3, et je te laisse compléter sur ce chapitre ou un suivant. À la fois pour montrer la réalité du péché, la corruption de l'être humain, comment le péché n'est pas juste une maladie, mais c'est quelque chose qui touche tous les aspects de l'être humain. C'est ce qu'on appelle la dépravation totale ou la corruption totale ou entière de l'être humain. Et on voit ça dans le chapitre 3, les versets 9 à 18 essentiellement, pour montrer que tous les aspects de l'humanité sont corrompus, sont atteints par le péché, et donc l'être humain est incapable par lui-même de venir à Christ. Non seulement pour montrer ça, mais aussi ce chapitre est bon, le plus clair pour montrer le sens de la croix, de ce qui s'est passé à la croix et du moyen d'être justifié. Avec Christ qui est la propitiation, qui prend sur lui la colère de Dieu à notre place. Et un passage qui m'a beaucoup marqué, et ça c'est Paul Washer, je pense, qui m'a aidé à le comprendre, c'est le verset 26 du chapitre 3, où il est dit que Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et de comprendre comment la croix est le seul moyen par lequel Dieu peut être juste tout en déclarant juste ceux qui ne le sont pas. Parce que si Dieu, comme dans l'islam par exemple, se contentait uniquement de pardonner ceux qui font le bien, bah Dieu ne serait pas juste, parce qu'il ne serait pas en train de punir le péché. Le péché, la poussière serait mise sous le tapis. Et ce serait comme dire à un criminel, bah, t'es libre parce que t'es un bon gars, même si t'as tué cette personne ou si t'as commis un viol ou quoi que ce soit. Mais Dieu n'est pas comme ça, Dieu est juste. Et le seul moyen pour qu'il soit juste tout en déclarant juste ceux qui ne le sont pas, c'est la croix. Parce que sur la croix, c'est là que Jésus prend sur lui la punition que nos péchés méritent, c'est là que lui prend le jugement et que le péché est réellement pris au sérieux, mais que le péché est en même temps pardonné pour ceux qui se repentent et qui croient en Christ. Et ça, c'est un verset qui m'a beaucoup aidé.
Et je trouve que c'est un verset qui montre aussi, qui est rassurant sur le fait qu'on a bien compris l'évangile, parce que il suppose qu'il y aurait une tension, tu vois, que justifier quelqu'un qui a foi en Jésus, ça poserait la question de la justice de Dieu. Et donc ça montre qu'on a bien compris la justification, parce qu'effectivement, la justification que Dieu déclare juste un impie, un pécheur, c'est quelque chose qui pourrait sembler injuste. Et la croix répond justement à cette idée que ça pourrait être injuste, mais je trouve que c'est un bon verset clé pour défendre la justification par la foi. Un verset qui m'avait bien encouragé, qui est à peine plus loin, même si on change de chapitre, chapitre 4, verset 5, c'est cette belle expression que Paul utilise pour désigner Dieu, il l'appelle celui qui justifie l'impie. Et je me souviens d'une période de ma vie où je traversais des doutes et où ce verset, par sa clarté, m'avait vraiment encouragé. Quand on pense à sa clarté, c'est formidable. Il dit Dieu qui justifie l'impie. Chaque mot est précieux, parce qu'on peut être un impie et on n'a pas besoin de nier ce qu'on est aux yeux de Dieu. Et pourtant, c'est dans cette situation, dans cet état d'impiété que Dieu nous déclare juste. C'est ce que Luther résumait en disant en même temps juste et pécheur, par une formule latine, simul justus et peccator, en même temps juste et pécheur. Et là, ce verset l'exprime vraiment très bien avec ce titre, un beau titre pour Dieu, celui qui justifie l'impie.
Ouais, tout à fait. J'avance au prochain chapitre, le chapitre 5, verset 1, c'est peut-être mon verset préféré de cette lettre, et peut-être de la Bible entière, je ne sais pas. En tout cas, ça change chaque jour, ça, mais un verset qui m'est particulièrement cher. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que ce verset, c'est juste, enfin, c'est tout ce qu'on a besoin pour mourir en paix dans ce monde, de savoir qu'on est justifié par la foi, qu'on a la paix avec Dieu. Si on regarde Romains 1, verset 18, on n'avait pas la paix, c'était la colère de Dieu qui se révélait du ciel sur les êtres humains. Mais par la justification qu'on a en Christ, on a la paix avec Dieu. Dieu est réellement en notre faveur, il est pour nous, comme nous le montrera Romains 8. Et je sais que juste ce verset, dans des moments de doute, de lutte, de chute, de stress, de quoi que ce soit, juste de se rappeler ces versets, mais voilà, j'ai ce dont j'ai le plus besoin. Le pardon des péchés, la vie éternelle, la justification, j'ai rien besoin de plus de savoir pour être heureux sur cette terre.
Ouais, je me souviens qu'on avait fait un épisode sur la mémorisation de la Bible et je pense que plusieurs chapitres de Romains, si ce n'est toute l'épître, ça serait quelque chose de précieux à mémoriser.
Ouais, tout à fait.
Tu m'avais dit que tu voulais parler aussi du chapitre 6.
Ouais, c'est juste qu'en l'étudiant, alors quand j'ai fait mes études à l'Institut biblique de Bruxelles, à Bruxelles, et dans les cours, on a étudié les chapitres 5 à 8 dans l'original, et donc ça impliquait de passer beaucoup de temps à méditer ces versets-là. Et ça a juste changé ma perspective sur le rapport entre le chrétien et le péché. Dans le sens où la manière dont je voyais les choses un peu avant, c'est que voilà, c'est 50-50, le péché est en train de prendre le dessus sur toi, mais tu dois vraiment lutter, etc. Et alors oui, il y a cette lutte, et ça c'est vrai, on le voit avec le reste de l'écriture, mais ce chapitre-là révèle la nature de la relation entre le chrétien et le péché, en montrant que le chrétien n'est plus esclave du péché. Donc on n'est plus sous l'esclavage du péché, on est libéré de l'esclavage du péché, on est esclave de la justice, on est esclave de Dieu. Et donc c'est faux de dire que le péché est plus fort que nous. Le péché n'est pas plus fort que nous. Oui, ça reste une réalité qu'on pêche, et un chrétien va continuer à pécher sur cette terre, et donc on ne veut pas tomber dans le perfectionnisme, de dire qu'on peut atteindre le niveau de perfection sur cette terre ici-bas, ce n'est pas le cas. On l'aura dans la gloire à venir. On continue à pécher. Et en même temps, on a réellement les armes pour ne plus pécher. Christ nous a réellement libérés du péché. Et donc quand on pêche, c'est juste qu'on oublie notre identité, on oublie ce que l'on est, et on ne vit pas en conformité avec ce que l'on est. Et la personne qui a résumé ça bien pour moi, c'est Matthew Henry, qui est un missionnaire à l'étranger, et qui disait « Je ne peux pas m'attendre à vivre sans péché dans ce monde, mais je peux m'attendre à vivre sans à chaque instant. » Donc il était réaliste, on ne peut pas s'attendre à vivre sans péché dans ce monde, on va continuer à pécher, et pourtant, à chaque instant, au moment présent, là j'ai les armes en main pour lutter contre le péché. Parce que je ne suis plus esclave du péché, parce que Christ m'en a libéré. Bon, on pourrait faire un épisode là-dessus, mais voilà.
Bah, tu vois, en fait, la prochaine fois, si on n'a pas d'idée d'épisode, on survole Romain et ça viendra.
Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ok, à toi.
À moi. Si tu le permets, je fais un saut à Romain 9 et si tu voudras revenir à Romain 8, parce que
ouais,
Romain
non,
8,
vas-y,
c'est
ouais.
un chapitre, on le disait hein, avant d'enregistrer l'épisode, c'est sûrement le chapitre préféré de beaucoup de gens dans la Bible, et à raison. Mais Romain 9 a été précieux pour moi parce que ça a été, je trouve, on a déjà fait un épisode hein, sur le calvinisme qu'on vous encourage à écouter, mais c'est un épisode, je trouve, qui est très clair. Et on a du mal à y échapper, même quand on le veut, sur la clarté, la souveraineté de Dieu, le fait que la grâce de Dieu précède même notre foi, nos premiers pas vers Dieu sont précédés par la grâce de Dieu. Et ouais, il faudrait le survoler encore une fois en détail, mais je le trouve magnifique la façon dont Paul démontre que du début à la fin, Dieu est souverain dans l'attribution de sa grâce, parce que ça nous ôte tout mérite, et ça nous donne aussi un abondant sujet de le louer, de s'émerveiller, d'avoir pas d'autre réponse à la question pourquoi moi, si ce n'est parce que Dieu l'a voulu, parce qu'il est libre et parce qu'il a été plein de grâce envers moi. Et le côté étonnant, surprenant de la grâce de Dieu nourrit l'adoration. On le voit d'ailleurs dans le fait que la section qui est inaugurée par le chapitre 9 se termine au chapitre 11 par une adoration de la part de Paul. Mais vraiment, c'est un passage sur lequel je suis revenu souvent pour m'émerveiller de la souveraineté de Dieu.
Effectivement, ouais. Et bon, ouais, peut-être qu'il faut qu'on termine gentiment. Donc, chapitre 8, ça prendrait énormément de temps d'aller dans les détails, mais chaque verset est juste hyper précieux et chaque verset est juste magnifique. Et bon, on pourrait faire peut-être un épisode aussi sur le chapitre 8, mais juste pour montrer la sécurité que l'on a en tant que croyant. Et ça va avec ce que tu dis là, hein. Si c'est Dieu qui est souverain, si c'est Dieu qui est l'auteur de mon salut, alors je suis entre ses bonnes mains. Et donc, je sais que malgré tout ce que je vis, même les épreuves qui sont mentionnées dans Romains 8, même la souffrance, en fait, ne suffiront pas pour m'enlever de la main de Dieu et du plan souverain de Dieu, et qu'il accomplira son but même par la souffrance. C'est des versets qui sont vraiment super encourageants pour les chrétiens qui souffrent et qui luttent. Est-ce que tu as encore un dernier truc à dire? Sinon, je propose qu'on termine avec la fin du chapitre 11 que tu as mentionné, la doxologie.
Écoute, non, je pense que ça rallongerait. C'est vrai qu'on pourrait parler de chaque chapitre, mais on va s'arrêter là pour cette fois-ci.
Voilà, les amis, on fera un épisode bis sur Romains, peut-être. Les autres chapitres aussi, et la fin de Romains 12 et 13, 14, 15 sont vraiment aussi précieux. On vous encourage à lire cette lettre, à peut-être faire l'exercice de la lire plusieurs fois à la suite. Je sais pas si on avait parlé de ça à deux, mais à un moment, je sais que c'est toi qui m'avais encouragé, ou je sais plus où on en avait parlé, mais à lire de manière, plutôt que de lire, voilà, ok, je lis Romain, puis ensuite je passe à un autre livre, etc. De dire, bah, ok, je vais lire 20 fois de suite Romain, ou 20 fois de suite Colossien. Ça nous encourage à juste plonger en profondeur dans un livre de la Bible, et Romain, c'est un excellent livre dans lequel plonger, comme tous les autres livres de l'Écriture d'ailleurs. On a parlé l'épisode dernier de l'autorité de la Bible. C'est pas que Romain a plus d'autorité que les autres livres de la Bible. Tout écrit qui vient de Dieu possède l'autorité de Dieu, et on veut y plonger les regards. Alors on termine avec les versets 33 à 36 de Romain. De Romain 11, pardon. « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. »
Amen. Et on vous laisse avec ce beau défi de lire Romains d'ici le prochain épisode.
Exact. Quel beau défi. Allez, à bientôt les amis.
À bientôt.